Bonjour à tous, à chacune, à chacun. Ensemble m'a aussi fait penser, tu le disais, Sigère, tout à l'heure, à ces gens qui, au moment où on parle, sont en train de porter de l'eau, arroser les incendies, avec les pompiers, auprès des pompiers. Bel exemple de solidarité que tous ceux qui sont en train de lutter contre le feu en ce moment. Ensemble, pompiers, pas pompiers, mais volontaires en tout cas. Voilà, c'est l'image qui est née dans mon esprit quand tu parlais d'ensemble tout à l'heure aussi. Ce matin, nous abordons un texte que vous connaissez par cœur, peut-être, et nous allons lire le début et la fin d'une histoire, pour commencer. Et voilà l'histoire dont il s'agit. Et je lis avec vous, « En partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent alors cette question, « Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est né aveugle? Est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents ?» Jésus répondit, « Cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. » Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, Jésus cracha par terre et avec sa salive, il fit un peu de boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle. Puis il dit, « Va te laver au réservoir de Siloé. » Le mot « Siloé » veut dire « envoyer ». Et c'est là que je cherche la télécommande. Voilà. Fin de l'histoire. Jésus apprit qu'il l'avait expulsé, il alla le trouver et lui demanda « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il lui répondit « Qui est-ce ? Dis-moi, Seigneur, pour que je puisse croire en lui. » Jésus lui dit « Tu le vois de tes yeux. C'est lui-même qui te parle maintenant. « Je crois, Seigneur, déclara l'homme. » Et il se prosterna devant lui. Est-ce que cette guérison est une guérison ordinaire? Nous sommes 6 mois après la fête de Pâques, donc plutôt à l'automne. Et si on se fie à une proposition de chronologie qui est telle qu'elle apparaît dans la Bible du Semeur, à l'automne de l'année 29, la fête des cabanes vient d'avoir lieu. Et au cours de cette fête, Jésus a rejoint discrètement, mais les occasions de confrontation avec les pharisiens se sont multipliées. Et c'est donc dans un climat qui est de plus en plus tendu que notre épisode se déroule. Ce sera mentionné plus tard dans le récit. La journée qui se déroule sous nos yeux est une journée de sabbat. C'est en quittant rapidement le temple, parce que sinon il aurait été lapidé, que Jésus va poser un acte de sa propre initiative. Contrairement à d'autres situations, il ne répond pas à une sollicitation ici. Un aveugle de naissance est là, ça c'est la réalité crue de la vie. Juste avant, dans le temple, il y a eu une discussion théologique très houleuse sur le fait de ce que ça signifie d'être fils d'Abraham. Mais maintenant, là, en sortant, une situation bien concrète, un aveugle de naissance qui ne demande rien. La situation interroge les disciples et nous aussi, bien sûr, pourquoi est-ce que ça existe? Qu'est-ce qu'il explique? Il y a forcément une faute de la part de quelqu'un. Et dans ce cas, c'est qui? L'aveugle, ses parents? C'est très humain de chercher à comprendre le pourquoi d'une telle situation. Les disciples ont grandi dans une culture où l'idée que Dieu inflige la souffrance est complètement écarté. Et donc celui qui souffre, celui qui est infirme, il y est forcément pour quelque chose, lui ou ses proches. Il y a forcément une faute, un manquement là-dessous. Et c'est un raisonnement qui finit d'ailleurs par faire d'une victime, en définitive, un coupable. Il faut à tout prix boucler la boucle, sinon le monde est incompréhensible. Et Jésus ne rentre pas du tout dans ce schéma.
Ça n'a pas de rapport avec son péché ou celui de ses parents, c'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Ici, aujourd'hui, c'est l'avenir qui importe et comment l'initiative de Jésus va permettre d'ouvrir cet avenir, car c'est le moment d'intervenir. Aussi longtemps que je suis dans le monde, dit Jésus, je suis la lumière du monde. Et c'est le maintenant de Dieu qui compte. Ce qu'il annonce de possible, ce n'est pas le démontage pièce par pièce de la réalité. C'est ce que Dieu va être capable de faire à partir de cette réalité. Alors c'est vrai que symboliquement, un aveugle qui retrouve la vue, c'est quelqu'un qui ouvre vraiment un nouveau chapitre, qui la trouve d'ailleurs, ne la retrouve pas, qui la trouve. Et le récit de cette guérison, il est très sobre, hein, vous avez vu, faire de la boue avec de la salive, mélanger à de la terre, laver ses yeux avec l'eau du réservoir de Siloé, et vous avez la conclusion, et à son retour, il voyait. Mais ce n'est pas fini. Je suis la lumière du monde, ça ne se résume pas à la seule guérison de la vue. Certes, il y a la lumière qui frappe maintenant les rétines de notre aveugle nez. Ça, c'est vraiment nouveau pour lui. Et c'est déjà énorme, hein ? Mais ce n'est pas suffisant, ce n'est pas complet. Alors Jésus vient le chercher une deuxième fois. Jésus vient le chercher une deuxième fois et cette fois-ci, il va poser la question du croire. Oui, Jésus fait à nouveau le déplacement vers celui qui était socialement connu jusqu'ici comme un aveugle de naissance et pour qui, depuis sa guérison, on va le voir tout à l'heure, ça ne s'est pas vraiment bien passé. Mais Jésus apprend en tout cas qu'il a été exclu, refoulé, repoussé, et il le retrouve. Et encore une fois, il prend l'initiative. Parce que maintenant, après la question du croire, du voir, c'est la question du croire. Crois-tu au Fils de l'homme ? L'expression « Fils de l'homme » dans l'inconscient collectif, à l'époque et dans la culture, ça renvoie à quelque chose de très précis qu'on ne trouve qu'une fois dans l'Ancien Testament. C'est une expression qu'on trouve dans Daniel 7, versets 13 et 14, le prophète. Et ce passage évoque bien quelqu'un de semblable à un fils d'homme, identifiable donc, reconnaissable par les humains, par vous, par moi, par les disciples, mais en même temps, cette forme humaine a des attributs décrits par le livre de Daniel qui sont bien plus importants, la royauté, la souveraineté, l'éternité, la gloire. Si on regarde ce passage, voilà ce que ces deux versets disent du Fils de l'homme. « Je regardais donc dans mes visions nocturnes », c'est Daniel qui exprime sa vision, « sur les nuées du ciel, je vis venir quelqu'un semblable à un fils d'homme. Il s'avança jusqu'au vieillard âgé de nombreux jours, et on le fit approcher devant lui. On lui donna la souveraineté, la gloire et la royauté, et tous les peuples, toutes les nations, les hommes de toutes les langues lui apportèrent leurs hommages. Sa souveraineté est éternelle, elle ne passera jamais. » Et quant à son royaume, il ne sera jamais détruit. Et on sait que Jésus lui-même n'a pas cessé de se présenter, les évangiles en témoignent, comme le Fils de l'homme, sans arrêt. On dénombre 78 fois, quand on regarde les quatre évangiles, 78 fois Jésus dit, de lui, il se présente comme le Fils de l'homme. Et ça renvoie à Daniel 7, versets 13 et 14. Alors, on voit bien que la question que pose Jésus à notre homme guéri, elle est très lourde de sens. C'est pas « crois-tu en moi parce que je t'ai guéri ?» Il aurait eu des raisons de le faire, hein, l'aveugle. « Tu m'as guéri, donc je crois en toi. » La question que Jésus pose a beaucoup plus de consistance. « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Celui dont parle Daniel. Et notre homme ne demande qu'à croire, à condition de savoir de qui il s'agit. La différence maintenant, c'est qu'il a des nouveaux outils pour voir. Et Jésus lui dit, tu le vois de tes yeux, c'est lui-même qui te parle maintenant. Alors soudain, ce n'est pas simplement les yeux qui voient, c'est toute une personne pour qui Jésus se révèle pleinement dans ce qu'il est. « Je crois, Seigneur ».
Certains manuscrits, je crois, ne portent... Non. « Je crois, Seigneur », il le dit. C'est au-dessus qu'éventuellement « Seigneur » n'apparaît pas dans tous les manuscrits.
Mais voilà, je vois certes maintenant, mais je comprends surtout qui tu es. Croire, c'est voir de l'intérieur. Alors, vous avez remarqué que j'ai quand même passé sous silence quelques épisodes, entre deux. Ça a été dur d'arriver là. Ça a été très très dur d'arriver là, parce qu'il n'a pas été épargné.
Ses voisins et ceux qui avaient l'habitude de le voir mendier dire « Cet homme, n'est-ce pas celui qui était toujours assis en train de mendier ?» Les uns affirmaient « C'est bien lui », d'autres le niaient « C'est pas lui, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Quant à lui, il disait « C'est bien moi ?» Alors on le questionna « Comment se fait-il que tes yeux soient ouverts ?» Il répondit, « L'homme qui s'appelle Jésus a fait un peu de boue, m'en a frotté les yeux, puis il m'a dit, « Va, Siloé, lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé, d'un coup, j'ai vu clair. Et lui demandèrent-ils, « Où est-il ? » ? « J'en sais rien. » On avait l'habitude de le voir mendier, cet homme, c'était son rôle. Il faisait partie du paysage. Alors, ce changement, c'est trop, c'est pas possible. C'est pas possible. Il doit y avoir erreur sur la personne. Et c'est la première question qui se pose dans l'environnement familier de notre homme. Première blessure de son parcours. Cet homme a-t-il le droit de devenir quelqu'un d'autre que ce qu'on en connaît jusqu'ici ? Et ça, c'est aussi une question pour nous ce matin. À l'occasion de ce récit, est-ce que je suis prêt à concevoir que telle ou telle personne que je connais puisse être changée, transformée, rétablie, restaurée ? Ou est-ce que j'ai décidé que sa trajectoire de vie, ça ne peut pas être une autre que celle que j'imagine ? C'est comme si il ou elle est comme ceci, il ou elle est comme cela, et de toute façon, il ou elle ne changera jamais. Et sa place, son rôle aujourd'hui, au nom de quoi puis-je décider que c'est sa place et son rôle pour toujours ? Au nom des limitations que je constate chez la personne, est-ce que je lui refuse toute évolution possible ? C'est une question pour nous. Et en tout cas, c'est ce que vit notre homme. C'est ce que vit notre homme. Autour de lui, il y a personne, vous l'avez noté dans le récit, pour se réjouir de ce qui lui arrive. Personne. C'est pas lui. Et lui répond, c'est bien moi. Et de toute façon, ce gars-là, il n'existait que par sa situation de mendiant et porteur de handicap. C'était son identité. Alors, ses interlocuteurs se concentrent uniquement sur la façon dont ça s'est passé. Comment ? Explique-nous ! Mais il n'y a rien à expliquer. Je vous dis juste les faits. Voilà. Il m'a fait ça, il m'a dit ça, je suis allé me laver et voilà. Et vous notez que notre ex-mendiant au bord des routes, finalement, ne sait pas grand-chose. Il ne sait même pas dire où se trouve l'homme qui s'appelle Jésus qui l'a guéri. On part de loin, hein ? On amena l'homme qui avait été aveugle devant les pharisiens. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue pour lui ouvrir les yeux. Les pharisiens lui demandèrent donc à leur tour comment il avait recouvré la vue. Il leur répondit, il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et maintenant j'y vois. Là-dessus, quelques pharisiens déclarèrent, cet homme ne peut pas venir de Dieu puisqu'il ne respecte pas le sabbat. Pourtant, d'autres objectaient, comment un homme pécheur aurait-il le pouvoir d'accomplir de tels signes miraculeux ? Ils étaient donc divisés. Alors ils interrogèrent de nouveau l'aveugle. « Voyons-toi, que dis-tu de lui, puisque c'est à toi qu'il a ouvert les yeux ?»« C'est sûrement un prophète, » répondit-il. Mais ils refusèrent de croire que cet homme avait été aveugle et qu'il avait été guéri de sa cécité. Alors là, on donne la parole aux experts. Et on donne la parole aux experts qui ne sont pas d'accord, comme souvent d'ailleurs. Quand une situation vous échappe, on va chercher les experts. Et qui sont-ils aujourd'hui ? Aujourd'hui, les experts sont des pharisiens, des autorités religieuses parmi les plus influentes socialement à l'époque. Et on dirait aujourd'hui, en quelque sorte, les gardiens du temple, dans le sens où ils veillent à l'observation de la loi, ils veillent aux traditions, et leur motivation, il ne faut pas la dévaloriser, leur motivation, c'est la fidélité. Il ne faut pas caricaturer les pharisiens. Mais le résultat de cette activité, c'est une activité permanente de jugement, de classement, de catégorisation des situations. Et cette situation aujourd'hui, elle est typique. Il faut décider si le fait de guérir un aveugle le jour du sabbat, c'est licite ou illicite, c'est permis ou c'est pas permis. Et le point d'attention, il est là, il est nulle part ailleurs, le point d'attention. Personne ne se réjouit de ce que vit un aveugle qui pour la première fois perçoit les paysages, les couleurs, les personnes. On ne se réjouit toujours pas avec lui. Où est la sincère émotion qu'on pourrait éprouver quand on verrait cet épisode ? Elle est absente. Où est le partage ? Et d'ailleurs, notre homme, il sait très bien qu'il n'est plus l'objet de l'attention des experts. Vous avez vu, hein, il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, maintenant j'y vois. Son récit est de plus en plus court. Hein. Son récit est de plus en plus court. Il l'a déjà dit plusieurs fois. De toute façon, tout le monde s'en fiche. On ne l'écoute pas vraiment. Et ça, c'est la deuxième blessure dans le parcours de notre homme. Il n'existe toujours pas. Il n'est qu'un prétexte. Alors ça, c'est une scène qui peut aussi nous parler en tant que communauté, en tant qu'Église. Parfois, on est plus prompt à nous demander ce qu'il faut penser d'une situation, comment juger, de quel côté la classer. Trop vite, souvent, sans prendre le temps de s'arrêter pour comprendre comment cette situation est vécue au plus profond par la personne concernée ou par les personnes concernées. C'est aussi une question pour nous. Nos chers pharisiens, eux, ils ont du mal à avancer vers la décision. Aujourd'hui, cette fois-ci, ils vont régler le sujet de manière originale. Ça leur évite de trancher et ça les soulage dans un premier temps. Quelle est la sortie de secours ? Vous l'avez vu, le miracle n'a pas eu lieu. Il n'était pas aveugle. Il n'a pas été guéri. Nier la réalité, c'est très commode quand on est poussé dans ses retranchements. Et c'est une solution qui arrange tout le monde. Les points de vue sont divergents, on l'a vu, de la façon dont il faut considérer le comportement de Jésus. Ce n'est pas aussi uniforme. Le sujet est délicat. Évacuons le sujet. Nions la réalité de la guérison. Mais pendant ce temps, il y a une personne, au moins, qui a fait du chemin, et c'est notre aveugle-né. Il y a quelque chose qui a bougé en lui. Quand on lui demande pour la première fois comment il considère celui qui l'a guéri, vous avez noté, il répond, c'est sûrement un prophète. C'est plus simplement un homme appelé Jésus, comme il disait auparavant, ça devient un prophète. Et c'est une ouverture qui vient de se faire en lui. Elle va s'élargir de plus en plus. Finalement, ils firent venir ses parents. Ils leur demandèrent, « Cet homme est-il bien votre fils ? Est-il réellement né aveugle ? Comment se fait-il qu'à présent il voit ?»« Nous sommes certains que c'est bien notre fils, » répondirent les parents, « et qu'il est né aveugle. Mais comment il se fait qu'il voit à présent ? Nous ne le savons pas. Ou qui lui a rendu la vue ? Nous ne le savons pas davantage. » Interrogez-le donc lui-même. Il est assez grand pour répondre en ce qui le concerne. Les parents parlaient ainsi, c'est Jean qui l'explique, parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ils avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue tous ceux qui reconnaîtraient Jésus comme le Messie. Voilà pourquoi les parents de l'aveugle avaient répondu, il est assez grand, interrogez-le lui-même. Et qui on appelle à la barre ? Les parents et la famille, rendez-nous des comptes. On l'a vu, les pharisiens ont un gros problème. Il est plus facile de nier un miracle que de l'admettre. Mais sur le fond, on sait que les pharisiens ne sont pas opposés au miracle. Ils considèrent d'ailleurs dans leur théologie que les règles naturelles, les lois naturelles que Dieu a instaurées et qui font que le monde tient, c'est déjà un miracle en soi. C'est la conviction des pharisiens. Et ça ne les empêche pas d'ailleurs de considérer que Dieu peut interrompre ces lois naturelles pour intervenir de façon exceptionnelle. Donc, les pharisiens ne sont pas opposés au miracle, par principe. Mais là, c'est différent, parce que reconnaître que dans la guérison de l'aveugle-né, il y a l'évidence d'un miracle, c'est reconnaître en même temps que l'action de Jésus est de caractère divin. Et ça, ça pose problème. C'est précisément ce qu'il faut éviter. Jésus a suffisamment revendiqué son identité divine. Relisez le chapitre 8 qui précède. Il ne faut surtout pas lui reconnaître cette identité à travers ce nouvel épisode. Et il y a tout un arrière-plan que, dans l'Ancien Testament, tous les connaisseurs de l'Écriture ont bien à l'esprit. La guérison d'un aveugle dans l'Ancien Testament, c'est riche de significations très fortes. Ils lisent à la synagogue Ésaïe 29, 18. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, et délivrés de l'obscurité des ténèbres, les yeux des aveugles verront. À la synagogue, on lit aussi Ésaïe 35, 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors pris isolément comme ça, oui, bon, d'accord. Mais quand on le resitue dans le contexte de ce que dit Ésaïe, à ce moment-là du livre, il est question de quoi ? Il est question du jugement de Dieu sur Jérusalem et sur Juda. Et ceux qui connaissent les textes ont bien fait le rapprochement. Chacun redoute de voir arriver ce que la littérature apocalyptique d'Ésaïe a commencé à décrire. Ils savent que ce sera associé au jugement de Dieu sur Jérusalem et sur Juda. Alors oui, il est bien plus facile de nier le miracle. On comprend mieux l'énergie dépensée à faire dire aux parents que tout ça n'a pas eu lieu. Est-il réellement né aveugle ? C'est bien la seule chose sur laquelle les parents ne peuvent être contredits. Ils le savent mieux que personne. Et au passage, c'est une troisième blessure infligée, cette fois-ci non pas à l'aveugle-né, mais à ses parents. On est en train tout simplement de les accuser d'avoir menti sur la réalité du handicap de leur enfant. C'est pas tendre, hein, tout ça. Aucune empathie encore. On pourrait se réjouir avec eux de ce que leur fils voit, non, toujours pas. Alors à la question « comment se fait-il qu'ils voient ?», ils ne peuvent pas répondre, et ils ne veulent surtout pas répondre, les parents. S'il s'agit d'une guérison vraiment miraculeuse, le risque est grand que tous ceux qui fréquentent la synagogue en tirent argument pour dire que Jésus est le Messie. Les autorités religieuses auraient à ce moment-là un sacré problème. Les gens liraient tout d'un coup les textes d'Ésaïe différemment. Alors arrêtons-nous quelques secondes juste sur ce sujet. Le danger que perçoivent les autorités religieuses, c'est de perdre la main sur une organisation. Celle de la synagogue. C'est surtout perdre la main sur une lecture et sur une tradition d'interprétation. Et ça aussi, ça peut être un point de questionnement pour nous. Est-ce que dans notre lecture des textes bibliques, est-ce que dans ma lecture des textes bibliques, j'ai construit un système d'interprétation fermé sur lui-même, qui n'admet aucune nouvelle piste possible ? Est-ce que je me sens dérangé quand de nouvelles propositions de lecture et d'interprétation voient le jour ? Ou est-ce qu'au contraire, ça m'encourage et ça stimule mon appétit pour la parole de Dieu ? Il y a parfois une recherche de fausse sécurité dans l'approche des textes bibliques qui élimine toute aspérité. On construit un système bien lisse, bien rond, qui nous rassure. Et alors, on ne va plus lire des textes qui nous dérangent parce qu'on ne sait pas trop comment les aborder. On ne sait pas trop comment les comprendre. Sommes-nous prêts à nous laisser surprendre par les textes bibliques, ou est-ce qu'ils n'ont plus rien à nous apprendre ? On se dirige vers la fin. Les pharisiens appellent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. » Ils lui dirent « Que t'a-t-il fait et comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit « Mais je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore ? Voulez-vous vous aussi devenir ses disciples ?» Ils l'injurièrent et dirent « C'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. » Cet homme leur répondit « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. » Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes. » Et ils le chassèrent. Alors ça, si ce n'est pas du harcèlement, ça y ressemble énormément. Qu'est-ce qui est dit là ? D'abord, si tu veux vraiment servir Dieu, l'honorer, dit le texte, dis-nous la vérité, entre parenthèses, mais surtout celle qu'on a envie d'entendre. Deuxièmement, explique-nous encore comment ça s'est passé, mais de toute façon, notre conviction est faite, cet homme qui t'a guéri est un pécheur, la question, elle est réglée. Vous avez vu la marge qui reste à notre homme ? La marge qui reste à notre homme, elle est vraiment étroite. Mais maintenant, il en a marre. Regardez comme il répond. J'étais aveugle et maintenant je vois, point, je ne vais pas vous refaire l'histoire. 4 fois. Vous me demandez comment, je vous l'ai déjà dit. Et cependant, ce qui est plus intéressant à noter, c'est le cheminement que cet homme a encore fait, un pas de plus. Quand il dit « Est-ce que par hasard vous avez l'intention de devenir vous aussi ses disciples ?» ça montre que désormais, il s'inclut dans le nombre des disciples. On est passé, vous vous souvenez, de l'homme qui s'appelle Jésus à « C'est un prophète » et maintenant à la notion d'appartenance, revendiquée. Et nous apprenons aussi que cet homme, il a du répondant. Il va le montrer dans un échange vif où il va faire face à un argument massu des pharisiens, celui de la légitimité par filiation. Nous sommes les disciples de Moïse. Comprenons, la loi, c'est nous qui la conservons, c'est nous qui veillons à son application. Et là, il y a quelque chose de surprenant qui se passe, c'est que l'aveugle né va se mettre à prêcher. Il développe 2 arguments. S'il était pécheur, Dieu ne l'exaucerait pas. Et on pourrait citer Proverbe 15:29, « L'Éternel se tient loin des méchants, mais il entend la prière des justes. » Et qu'a fait cet homme-là ? On ne l'avait jamais vu. C'est Dieu qui lui a permis de le faire, car il vient de Dieu. Quelle réponse à ça ? À ce que je peux considérer comme une prédication, quasiment, en 5 lignes, c'est-à-dire beaucoup moins long que moi. Une 4e blessure. La blessure, c'est la condamnation. Tu es pécheur des pieds à la tête. Et voilà l'homme que Jésus va rencontrer à nouveau. Vous avez vu avec moi qu'il a eu un chemin parsemé de blessures répétées. Mais peu à peu, la brèche s'est ouverte en lui et sa guérison physique a laissé passer de plus en plus de lumière. Non seulement il a vu, mais il va croire. Car croire, c'est voir de l'intérieur. Nous l'avons vu au début, un aveugle né était là sur le trajet Jésus et ses disciples repartaient après une confrontation violente avec des représentants religieux, où Jésus venait quand même d'affirmer sa divinité. « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Il faut l'avaler, ça. Hein, voilà ce qu'il dit. « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Et à la question initiale des disciples, vous vous en souvenez, pourquoi cet aveugle né dans cette situation ? La réponse de Jésus, c'est pas « je ne vais pas vous faire à la mécanique ». C'est pour qu'en lui, c'est-à-dire à travers ce qui va se passer pour cet aveugle né, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Voilà la réponse de Jésus. Alors bien sûr, on pourrait s'arrêter à la guérison physique de notre homme et considérer que c'est cela que Dieu est capable de faire, et c'est déjà beaucoup. Mais c'est de bien plus qu'il s'agit. La portée de la venue de Jésus-Christ est tellement plus essentielle. On le voit dans le verset surligné en rouge, Jésus dépasse cet épisode de la guérison de l'aveugle né et il le met en perspective. Il annonce que les prophètes ont appelé le jour du Seigneur, le jour du jugement, ce qui est une façon de dire que la période qui s'ouvre, c'est une période de vérité. Ça va bien au-delà de la guérison physique de l'aveugle né. Et Jésus, lumière du monde, va agir à ce moment-là comme un révélateur, un rayon X, quelque part. Certains vont le reconnaître, comme notre aveugle né, « Je crois, Seigneur ». D'autres vont simplement endurcir leur regard, comme nos pharisiens ici, et boucher leurs yeux, et donc devenir aveugles. Et c'est maintenant que ça se passe. Les aveugles voient, comme l'avait annoncé Ésaïe, Jésus a donné le signe attendu. Mais ça va bien au-delà du signe. Dieu se révèle à travers Jésus à l'humanité. « Crois-tu au Fils de l'homme ? » a-t-il demandé. Il pose peut-être pour la première fois la question à l'un ou l'autre d'entre nous ce matin. « Crois-tu au Fils de l'homme ? » As-tu compris qui je suis vraiment ? Et est-ce que tu me reconnais ? Heureux ceux qui ne m'ont pas vu et qui ont cru, dira Jésus un peu plus tard, à Thomas qui avait besoin de constater la résurrection. Heureux ceux qui ne m'ont pas vu et qui ont cru, parce qu'il n'est pas indispensable de voir pour croire. Croire, c'est reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et ouvrir les yeux intérieurs sur ce qui n'était pas évident jusqu'ici. Pour quelqu'un parmi nous ce matin, ben c'est peut-être le moment, alors que cette personne n'empêche pas la lumière de Christ de passer par la brèche qui vient de s'ouvrir. Et puis pour ceux d'entre nous qui ont accueilli cette lumière du Christ, il y a déjà quelque temps, ce passage a peut-être une chose spécifique à nous dire ce matin, et je vais en terminer par là. Puissions-nous veiller à ne pas faire de notre expérience un savoir orgueilleux. Nous savons que cet homme est un pécheur, disent les pharisiens. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Nous savons. Mais nous l'avons vu avec ce passage, qu'un savoir devient un capital à préserver, il empêche souvent de voir le vrai visage du Christ. Pétrir de la terre et de la salive, ça ne se faisait pas un jour de sabbat. Pétrir en général. Pétrir du pain. Et là, l'acte de pétrir de la terre et de la salive, c'est une des 39 interdictions le jour de sabbat. On ne pétrit pas le jour du sabbat. Alors pour nous, quelles sont les règles écrites ou non, formulées ou simplement intégrées dans notre esprit, qui forment un écran et qui empêchent de montrer Christ véritablement dans toute sa lumière ? C'est aussi un sujet de réflexion. Et c'est d'ailleurs une question que j'adresse d'abord à moi-même avant de la prononcer en conclusion ce matin. Quelles sont nos règles, écrites ou non, formulées ou simplement intégrées dans notre esprit, qui forment un écran et qui empêchent de montrer Christ véritablement dans toute sa lumière ? Alors, puissions-nous dire « nous voyons et nous croyons » avant de penser « nous savons ». Amen.